Excellence, Monseigneur l'évêque de Valfil, Excellence, Monseigneur l'évêque de Sirène, Excellence, Monseigneur le primat, chevêque de Québec, Excellence, révérendissime, Monsieur le maire, Messieurs les représentants des autorités civiles, honorables messieurs, messeigneurs, mesdames, messieurs, tout à l'heure dans la cathédrale, j'ai fait entendre la voix de l'Église. La cérémonie de la consécration d'un évêque est l'un des sommets de la liturgie catholique. De ses hauteurs, la terre paraît petite et les accents de nos voix deviennent célestes. Je présume cependant que tous ont saisi ces accents, même s'ils étaient célestes, puisqu'ils s'adressaient à un bel ange et ses amis. Vous m'excuserez si je reprends la parole. Il y a parfois des réputations qui sont à jamais compromises. Il y a quelque temps, au nouvel hôpital Saint-Charles-Borromée à Montréal, on organisait une grande corvée pour le jour du Vendredi Saint. 1100 personnes se présentèrent. Mais il y avait, affiché sur les murs de l'hôpital, une consigne. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de la mort de notre Seigneur et c'est en union avec lui que nous travaillerons. Et c'est pourquoi la corvée sera en silence. Et un brave homme de chez nous, un de ces bons Canadiens qui ont bien du bon sens, commença à lire cela et quand il eut fini, il dit « En silence », il dit « Le cardinal viendra pas ». Évidemment, cette réputation, elle peut devenir parfois une corvée. Mais dans ces lieux où j'ai déjà parlé, il est évident que je peux recommencer, continuer une vieille tradition. Lorsque j'étais à côté de mon évêque, et qu'il était mon évêque, il m'avait donné carte blanche. Il m'avait dit, vous parlerez. J'ai essayé d'obéir, j'ai parlé. Maintenant que je reviens chez lui, il est toujours aussi poli, aussi gentil à mon égard. Et alors, il m'a dit ce matin, vous parlerez. J'ai fait entendre tout à l'heure dans la cathédrale la voix de l'Église. Là, évidemment, tout le monde doit accepter. Parce que j'ai annoncé une vérité, des vérités, qui sont contenues dans le dépôt révélé. Mais en ce moment, je vais faire entendre la voix du souvenir. Les liens qui m'unissent au nouvel évêque de Sirène ont été tissés par la divine providence elle-même durant une vie d'amitié qui remonte aux lointaines années de 1925-26. Il était une fois un jeune homme qui cherchait dans l'épreuve de la maladie la voie qui conduit au sacerdoce. Un jour de novembre de l'année 1925, ce jeune homme frappait à la porte de l'évêché de Valifi. Il venait y chercher, auprès de son évêque, la réponse définitive à des perplexités qu'il avait en vain confiées à des directeurs par ailleurs habiles et bien intentionnés. Monseigneur Rouleau avait alors à ses côtés, pour remplir les fonctions de secrétaire, un diacre qui l'initiait déjà au secret de l'administration. C'était l'abbé Valérien Bélanger. On décida, sur le champ, sans avoir réuni chapitre, de revêtir ce jeune homme de l'habit ecclésiastique. Et comme il est difficile dans un évêché de trouver une soutane sans liséré violet, le jeune homme dut accepter l'une des soutanes du diacre. C'était la première fois que l'évêque de Cyrène aidait le futur cardinal de Montréal à porter sa croix. Le 29 mai 1926, le diacre devenait prêtre et le mystérieux jeune homme, que vous avez certainement identifié, entrait dans la milice cléricale par la réception de la tonsure. Je voudrais ici rendre un hommage ému et formuler une prière ardente à la douce mémoire du cardinal Rouleau. Si nous sommes ici, Monseigneur de Cyrène et moi-même, c'est parce que la divine Providence nous a un jour placés sur sa route. La route sur laquelle notre amitié a cheminé depuis 30 ans débuta donc ici. Les méandres de cette route furent très marqués. Et parfois la route elle-même se divisait, de sorte que nous étions aux antipodes, avec des détours mystérieux, qui nous ramenaient à ces carrefours merveilleux, où la rencontre nous prouvait que l'amitié qui nous unissait était toujours solide. En septembre 1929, nous partions ensemble sur le vieil Ausonia pour un séjour d'études en Europe. Durant 4 ans, vous seriez un Romain authentique. Quant à moi, je continuerai à marcher dans l'obscurité du mystère, car des études à Paris ne sont généralement pas une préparation indiquée pour entrer dans le Sacré Collège des cardinaux. Vers le début de juillet 1933, nous revenions au Canada, toujours ensemble, sur l'Ascania. Et bientôt, nous prenions des directions bien différentes et toujours mystérieuses. Après avoir exercé le ministère dans une paroisse, vous inauguriez au Grand Séminaire de Montréal un enseignement dont vous deviez faire bénéficier de nombreuses générations de séminaristes et qui devait s'étendre sur une période de 15 ans. Vous étiez un sulpicien authentique, alors que durant ces 15 mêmes années, je devais devenir missionnaire, curé, vicaire général, autant de titres qui semblent male sonantes, pies auribus sulpicianis. J'ai gardé de cette époque quelques lettres que vous adressiez de votre solitude du séminaire à l'ami perdu dans la brousse. Je me permets d'en citer quelques passages. 21 octobre 1934. Mon cher Paul, car en ces jours, il n'existait que Valérien et Paul. S'il y a un moment que je dois choisir pour t'écrire, c'est bien ce dimanche d'émission, où j'ai bien prié pour toi et tes œuvres, en me rappelant ce que j'enseigne en classe, que la foi est un don de Dieu, tout comme le missionnaire. C'est vrai que j'enseigne au Grand Séminaire, et cela depuis un mois. La Providence a des vues impénétrables, mais infiniment sages. L'important pour les créatures de la terre, c'est d'avoir une patience humble et forte pour la seconder au bon moment. 6 avril 1935. J'entre aujourd'hui dans ma 34e année et pour souligner cette transition qui passe tout à fait inaperçue ici, on est au Grand Séminaire de Montréal, je prends quelques instants pour me reposer avec toi en t'écrivant. Une fois encore, la Providence manifeste sa bonté en me faisant comprendre après coup sa sollicitude dans les moindres détails de ma vie. Puissais-je avec docilité, avec humilité, la seconder en tout. Ce qui est vrai pour moi, l'est pour toi aussi. Et je t'avoue que je ne serai jamais surpris d'apprendre que tu es nommé curé, vicaire général, ou bien vicaire apostolique dans quelques missions éloignées, ou tout autre chose. Le passé t'a instruit comme moi, et ta vie encore plus bousculée que la mienne, on en faisait ici, nous sommes toujours au Grand Séminaire, la remarque dernièrement. Entre tout à fait dans les plans providentiels, allons-y gaiement pour le bon plaisir de Dieu. Et après une allusion discrète à la nouvelle cathédrale de Valleyfield, qui
qui était en voie de construction, car je suis au Japon, là, moi. Et après une allusion discrète à la nouvelle cathédrale de Valleyfield qui était en voie de construction et que l'ami m'annonçait devant être le plus grandiose monument de la région. Ceux qui ne sont jamais venus l'ont constaté ce matin. La lettre se terminait par ce valet qui n'était certainement pas rien pour moi. Mais tu n'es pas privé pour cela de ce souvenir quotidien que j'ai pour toi au memento et je compte sur tes prières aussi pour être convenable ici ou là, lorsque la divine providence m'enverra, si jamais elle doit me changer. Et je ne puis résister à la tentation de citer une autre lettre, celle-là du 8 octobre 1938.
Les choses n'ont pas toujours marché sur les roulettes. Je l'ai constaté moi-même depuis. Dans tes missions, il en est ainsi, mais je travaille pour l'Église. Et quand les hommes ne sont pas contents, cela ne me dérange guère. Je fais ce que je peux et basta. J'ai perdu des amis à agir ainsi, mais l'Église n'a pas perdu à ce que le droit soit un peu mieux connu et à ce que l'ordre soit un peu plus respecté. Ces lignes de 1938 livrent le secret d'une âme. Aujourd'hui, elles expliquent la mission de l'évêque de Sirène. Mais je crois qu'il est temps que je laisse parler les autres. En effet, je ne veux pas insister sur les événements qui se produisirent de 1940 à aujourd'hui. L'amitié des premières années fut purifiée dans les obscurités de la foi et préservée par le respect que nous avions des tâches providentielles qui nous étaient confiées. Mais aujourd'hui, vous comprenez, Pionce disait un jour à l'un de ses intimes, placé dans une situation analogue à la vôtre, la plus grande marque d'amour que l'Église puisse donner à un prêtre, c'est de lui conférer la plénitude du sacerdoce. Lorsque vous êtes entré dans ma chambre le 14 mars et que nous étions les seuls à connaître les secrets de Dieu, vous vous êtes mis à genoux et vous m'avez dit que votre croix est lourde, bénissez le Cyrénéen qui vient vous aider à la porter. L'œuvre de Dieu est accomplie. Il me reste à remercier tous ceux qui ont rendu cette fête possible. Et tout d'abord, je rends des actions de grâce au Seigneur qui a bâti dans le temps ce jour d'aujourd'hui. Deus, qui odierna die, anque tuam misericordiam erganos manifestasti, concede nobis, semper in tua amore permanere, et recta sapere. Mais la divine providence agit par les causes secondes. Nous l'avons constaté en repassant les années écoulées. Or, l'artisan véritable de l'œuvre de Dieu, en tout ceci, en nous, ne fut-il pas notre évêque? Car, et il y a longtemps que j'aurais dû le dire, et peut-être me reprochera-t-on de ne pas l'avoir souligné avant cet instant, mais je voulais clore ce sens de l'action de grâce par là. Car, dis-je, il faut le proclamer bien haut, nous sommes l'un et l'autre deux fils aimés et chéris de l'évêque de Valleyfield. Sans trop le manifester, il a toujours tenu cependant les cordeaux de la Providence. Et malgré nos extravagances juvéniles et tant d'autres d'un âge plus mûr, il a tiré les lignes droites qui nous ont permis de marcher selon les intentions du Seigneur. Je dois avouer ici que le bon Dieu m'a toujours fait la grâce d'aimer les évêques qui furent dans ma vie les représentants de sa volonté. Séminariste, je n'ai jamais manqué à mon pèlerinage annuel auprès de mon évêque. J'ai parlé tout à l'heure du cardinal Rouleau. Il a été l'artisan des heures difficiles. Mais la première fois que je me suis présenté devant le nouvel évêque de Valleyfield en 1927, en ouvrant la porte, il me demanda qui j'étais. Je lui dis, je suis l'abbé Léger. Ah, c'est vous. Je n'ai jamais su ce qu'il avait voulu dire en cela. Mais je me rappelle fort bien de l'intonation. Et depuis, il faudrait que je rappelle l'influence qu'exercèrent sur moi le cardinal Verdi, archevêque de Paris, Monseigneur Breton, évêque de Fukuoka, et Monseigneur Gauthier, archevêque de Montréal. Cependant, les grandes étapes de ma vie ont toujours été marquées par une décision de l'évêque de Valleyfield. Et ceci est dans l'ordre si nous acceptons la doctrine qui nous a été enseignée dans le sermon ce matin.
Les deux fils de la vallée sont devant vous, chère excellence, comme les deux fils de Joseph qui se présentaient devant le patriarche Jacob. Il est dit au livre de la Genèse, chapitre 48, Joseph dit à son père, « Ce sont mes deux fils que Dieu m'a donnés ici. » Il dit, « Approche-les de moi, je te prie, que je les bénisse. » Or, les yeux d'Israël s'étaient affaiblis par la vieillesse, en sorte qu'il ne pouvait plus les voir. Joseph les fit approcher de lui, et il les baisa et les embrassa. Joseph les prit, tous deux, Ephraïm à sa droite, et ainsi à la gauche d'Israël, et Manassé à sa gauche, et ainsi à la droite d'Israël, et les approcha de lui. Israël étendit sa main droite qu'il plaça sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé, croisant ainsi les bras, puis il les bénit. Joseph s'aperçut que son père mettait sa main droite sur la tête d'Ephraïm, et cela lui déplut. Il saisit la main de son père pour l'écarter de dessus la tête d'Éphraïm et la mettre sur la tête de Manassé. Et Joseph quitta son père. « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Place donc ta main droite sur sa tête. » Mais son père s'y refusa en disant, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère plus jeune deviendra plus grand que lui. Et sa postérité deviendra un grand nombre de peuples. Israël dit à Joseph, que Dieu soit avec vous, et moi, je te donne, de plus qu'à tes frères, une région montagneuse. Et la vieille prophétie devient aujourd'hui une réalité. L'ancien curé de la vallée, votre vicaire général, pas toujours commode, je suppose. Vous m'aviez dit, lorsque je suis arrivé, qu'un vicaire général, c'était la doublure de l'évêque. Il y a toutes sortes de doublures. J'ai tout de même essayé d'être une doublure chaude. Et des fois, les doublures chaudes sont piquantes. Mais aujourd'hui, ce vicaire général, il est entré, par votre discrète influence, dans la région montagneuse. Et pour l'aider à gravir les flancs de la montagne, il est venu chercher son frère aîné, votre autre fils. Ensemble, ils porteront la croix pour la planter au sommet de la montagne. Le fils cadet emportera le poids, mais le cyrénéen lui apportera une aide précieuse. Et ainsi, tous les peuples, venant de l'Orient et de l'Occident, ceux d'Aréna et d'Opos, ceux d'Arsamosata, et tous les fils de la vallée, tous verront la croix dressée sur la montagne, et dans la lumière, et cette lumière permettra aux enfants du royaume de comprendre et de goûter les choses droites. Recta sapere. Chère excellence, vous remplacez sur le siège de Cyrène un évêque, qui porta ce titre de 1902 à 1954. Puissiez-vous aider votre archevêque aussi longtemps? Amen.